Alors, Marie-France, première réaction suite à cette annonce qu'il y avait du plagiat dans le monde des humoristes, et on pointait du doigt l'humoriste Gad Elmaleh. Le Bordel Comedy Club a décidé de bannir l'humoriste en question de sa liste d'invités après que la chaîne Copy Comic eut mis en ligne la vidéo alléguant que l'humoriste de réputation internationale copiait d'autres humoristes, dont les Québécois Martin Matt et Patrick Huard.
Exactement, et bravo au Bordel d'avoir réagi de cette manière-là. On remarque au passage la candeur ou la fatuité de Gad Elmaleh. Il a pillé des humoristes très connus, et c'est quelqu'un quand même qui a les moyens, qui aurait les moyens d'engager des auteurs, et il engage certainement des auteurs pour ses numéros. C'est donc très présomptueux de croire à l'ère des réseaux sociaux et de YouTube, Copy Comics est une chaîne YouTube, que ça va passer inaperçu. Sa technique à Gad Elmaleh, il prenait du vieux stock d'auteurs connus anglophones ou alors en français des auteurs ou des humoristes moins connus en France, comme nos Québécois, et ça pouvait passer inaperçu, croyait-il. Évidemment, on dira, il y a l'air du temps, il y a la coïncidence, on peut faire, il y a des chansons qui se ressemblent, il y a des romans qui arrivent en même temps sur le même sujet. Il y a comme un fond d'époque, une standardisation des sujets. Mais le vrai plagiat, il est odieux, il faut bien le dire. Et le voleur se fait une réputation de schnout, littéralement. J'entendais aujourd'hui des gens dire « Oh, c'est de l'humour, c'est pas très grave. » Il faut cesser de minimiser ça. C'est du droit d'auteur, c'est du matériel original. Et l'humour, comme la musique, c'est une industrie. Et le vol de propriété intellectuelle devrait y être reconnu, devrait être traqué. C'est pour ça que je dis que le Bordel a vraiment bien réagi en le mettant à l'index, sur sa liste noire. Et l'humour, c'est devenu notre forme culturelle numéro un, la plus payante, certainement. Il paraît d'ailleurs que ça se fait beaucoup, même entre Québécois, qu'on rende hommage du genre à des pionniers comme Deschamps, Lemire ou Clémence, c'est une chose. Mais voler du matériel, c'est autre chose. D'abord, l'humour est vénéré au Québec. Il y a vraiment une culture de l'humour. Il y a un savoir chez les fans, chez les journalistes qui fréquentent ce milieu-là. On sait ce que les autres font. On sait ce que les autres ont fait. Donc, voler un humoriste et voler un numéro, c'est très risqué pour votre réputation. Et de plus, on a au Québec une école de l'humour de haut niveau, très professionnelle. On y enseigne les règles de l'art et entre autres ce qui est indécent de faire, comme par exemple de voler un confrère. Mais puisque ça se fait, soyons avertis que nous, spectateurs, et que les humoristes soient vigilants. L'humour au Québec, c'est vraiment une pépinière. Parce qu'on est drôle, parce que c'est notre forme d'expression culturelle, certainement la préféré, parce qu'on l'a professionnalisé, entre autres, à l'école de l'humour, et parce qu'il est de très haut niveau, qu'on y développe tous les styles, qu'on invente sur tous les thèmes, qu'on explore beaucoup de choses. Donc, notre humour, c'est une manne pour les voleurs qui viennent d'ailleurs, qui peuvent venir des États-Unis, qui viennent de France, et on le constate avec Gad Elmaleh. Alors, que faire? Observer, débusquer, compter sur les journalistes culturels qui voient beaucoup de spectacles d'humour et qui sont très, très, très au fait. Et sur les fans également, c'est ce qui est arrivé dans le cas de cette chaîne YouTube. Ce sont des fans qui nourrissent cette chaîne-là.
Mais là, Marie-France, à surveiller et dans les prochains jours, parce que la chaîne en question, Copy Comic, va mettre en ligne début février. Écoute, début février, on y est, c'est dans deux jours. Une nouvelle série, une nouvelle compilation qui met en vedette Gad Elmaleh avec, tu sais, c'est un peu comme l'écran divisé, là. D'un côté, l'original, voici ce que Elmaleh a piraté et a volé. Et entre-temps, Gad Elmaleh doit recevoir le 4 février, donc c'est la semaine prochaine, en direct à la télévision, à la cérémonie française des Globes de Cristal, un globe d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des échos avant cette cérémonie.
J'entendais chez Isabelle ce matin, Jérémy Demé, qui disait qu'en France, c'était plus toléré, qu'on était, on s'en foutait un petit peu plus qu'ici, en Amérique du Nord. Mais pourtant, et peut-être parce qu'on considère que l'humour n'a pas le même statut qu'il a ici, mais pourtant, les Français sont extrêmement pointilleux sur le vol de propriété intellectuelle, le droit d'auteur, mettons, qui ont pas mal inventé ça. Donc, avec tout le bruit que ça fait en ce moment, pas certain que ça passe sous le radar cette fois-ci. En tout cas, ce serait vraiment souhaité parce que du vol de propriété intellectuelle, du vol de droit d'auteur, c'est vraiment du vol, c'est majeur.
Alors, le deuxième sujet est très intéressant et très large, très ouvert.
Oui.
C'est le cas de le dire parce que ça oppose deux visions et tu es convaincue, Marie-France, que le Québec de plus en plus est coupé en deux, notamment sur des sujets très précis.
Puis on s'écrivait sur ce thème-là ce matin et j'ai hâte de t'entendre, Paul, parce que tu y allais d'une réflexion bien intéressante. Tu disais que le Québec était sur le bord du burn-out.
Bien, j'ai peut-être exagéré parce que je te l'ai envoyé, mais moi, je trouve que le Québec...
C'est pas fou.
Le Québec est fatigué.
Hier, donc, je parlais de Théo en disant, de la faillite de Théo et d'Alexandre Pfeiffer, en disant que c'était... Théo avait été une bonne idée, généreuse, qui favorisait le bien commun, qui était innovante, mais j'ajoutais, avec une mauvaise implantation, trop de fonds publics et trop de politique. Mais c'était une bonne idée. Je nuançais. Donc, j'ai reçu une volée de bois vert et tout ça disait que Taillefer au pilori, c'était vraiment très cinglant, sans nuance. Et je remarquais que depuis quelques mois, sur des sujets très précis, Paul, dont je te parle et que je partage avec les auditeurs depuis quelques mois, j'ai remarqué le phénomène. Je donne mon opinion tous les jours. Je crois être nuancée, souvent regarder le pour et le contre parce que je ne suis pas de cette gauche plateau que certains aimeraient bien, de laquelle certains aimeraient bien que je sois. Mais les sujets, je trouve qu'il faut vraiment nuancer et je l'ai fait en parlant du registre des armes d'épaule il y a quelques jours. Un autre sujet qui suscite ce même genre de réaction, le pacte, évidemment, l'anglais à Montréal, l'école privée, l'école publique, la laïcité, Trump, Slav est un autre sujet qui divise énormément et je donne ces thèmes-là et je suis sûre que dans la tête de nos auditeurs, il y a tout de suite des opinions très, très, très campées qui apparaissent et donc c'est vraiment, il y a des camps littéralement anti-pacte, anti-anglais, pro-privé, pro-Trump qui sont très, très, très vocaux, limite belliqueux. Et il faut dire que le Québec a toujours été divisé. Ça fait 50 ans qu'on a été divisé. Tu as vu des familles se chicaner, se distancer, se diviser littéralement sur le thème du fédéralisme et du souverainisme. Vraiment, ça a été très intense. Et depuis que ça s'est évanoui pas mal, ça a été repris par la question gauche-droite, aussi le camp des diversitaires et le camp des identitaires. Tout ça relève de l'idéologie, mais de plus en plus, on voit cette faille-là entre Québécois apparaître entre Montréal et les régions et beaucoup, beaucoup, beaucoup entre les élites et ce que je vais appeler, faute d'autres vocables, le Québec ordinaire. On sent un ras-le-bol des élites, mais vraiment très, très marqué, avec peu d'arguments, à peu près toujours les mêmes, peu d'écoute de part et d'autre d'ailleurs, avec le classement des gens très radical. Si tu as signé le pacte, tu es comme ci, comme ça, puis tu penses exactement comme ça surtout. Et malgré la profusion de paroles partagées sur les réseaux sociaux, on dirait qu'on ne s'écoute plus, on a l'impression de débattre, de se parler, alors que c'est tout le contraire, la pensée est vraiment formatée, on catégorise les gens, les idées sont braquées, il y a très peu de nuances ou alors on ne veut pas les entendre, pas de discussion possible et le ton monte littéralement. C'est étrange parce que le Québec est pourtant une société assez égalitaire et ce genre de polarisation-là, on voit ça surtout dans des sociétés qui sont beaucoup plus inégalitaires que le Québec. C'est une société qui n'est pas bloquée politiquement. On l'a vu aux élections, il y a 4 partis avec des programmes distincts. Un parti qui a été élu par volonté de changement qui laisse, d'ailleurs, les sondages le montrent, les citoyens assez satisfaits. On n'est pas comme en France, une société très bloquée, très hiérarchisée, très élitiste. On n'est pas aux États-Unis avec 2 partis seulement. On est une société tissée encore très serrée. Mais on sent vraiment cette polarisation, cette fracture qui se dessine. J'aimais bien ton expression de burn-out ce matin. Est-ce qu'on est épuisé? Est-ce qu'on est sans repères sociaux, moraux? C'est vraiment une question que je me pose et j'aimerais t'entendre là-dessus.
Ben moi, écoute, je suis pas un expert, je suis pas un psychologue, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un anthropologue. Je dis simplement que dans la vie de tous les jours, avec la présence des réseaux sociaux, on revient toujours à ça, évidemment que les gens peuvent s'exprimer spontanément, voulant dire aussi que souvent, on commet une opinion, je dis bien on commet, hein, je fais exprès pour dire, on commet une opinion instantanément, et puis peut-être que quelques instants après, on commence à la regretter. Autre phénomène, je ne sais pas si tu l'as remarqué, la polarisation entre la pensée des grandes villes
tout à fait.
Et du reste des régions.
Oui, quoi. Oui, oui.
C'est vraiment polarisé.
Ah,
regarde
oui.
la CAQ, regarde la carte électorale du Québec et regarde le territoire de Montréal, par exemple. Et tu vas t'apercevoir que le territoire de Montréal ne correspond pas à la réalité politique du pouvoir actuel.
Oui, et c'est une fracture qui est inquiétante, je dois le dire, qui est vraiment inquiétante, qui apparaissait moins il y a quelques années. C'est assez récent comme phénomène et... On peut se poser la question, entre autres, qui ou quoi l'alimente? Les réseaux sociaux sont un facteur important, mais il y a certains médias, il y a certainement certains chroniqueurs qui l'alimentent également. Pourquoi elle surgit? Qu'est-ce qu'elle exprime? Parce que ça parle de quelque chose. On ne peut pas le nier, on ne peut pas le prendre à la légère. Je pense qu'il faut vraiment... étudier ça, il faut en parler, il faut s'en rendre compte et il faut nuancer parce que je regarde ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes tout en disant que c'est une société beaucoup plus hiérarchisée, beaucoup plus inégalitaire que le Québec.
Ça, c'est vrai.
C'est pas comparable
mais
du tout.
Mais ce fractionnement-là
existe, celui que tu décris, il existe.
Mais il y a différents niveaux de Gilets jaunes parce
que
à travers les Vox Pop qu'on entend, là, à travers toutes ces semaines de manifestations, ces week-ends-là, t'as des gilets jaunes foncés, extrêmement radicaux, des éléments radicaux qui vont là pour la casse.
Mm-hmm.
Et tu as des gens très nuancés qui disent « Moi, j'avais pas le choix parce que j'en ai ras la cuillère. »
Qui mettent le doigt sur quelque chose.
Oui, mais dans les gilets jaunes, t'as des niveaux d'intensité.
Oui, tout à fait. Et alors, c'est ça, il faut se rendre compte de ça et il faut l'écouter, ce ressentiment-là, de part et d'autre, et il faut se parler, il faut discuter et il faut nuancer, parce que s'il n'y a pas ça, à un moment donné, ça va éclater et il va y avoir des boucs émissaires. C'est pas... c'est vraiment nouveau. Quand c'était politique et souverainiste, fédéraliste, c'était très clair et ça s'exprimait dans les urnes. Là, c'est beaucoup plus diffus et c'est peut-être plus inquiétant dans ce sens-là.
Merci, Marie-France.
À demain.